du monde.
RFI, grand reportage.
Sébastien Farcy.
Ambiance de fête, ambiance de campagne politique. Une énorme estrade a été dressée en plein milieu du carrefour. Nous sommes au cœur de la métropole de Manille, dans la municipalité de Makati, l'une des plus riches et là où se trouve le plus grand quartier d'affaires des Philippines. Le maire, Jejomar Binay, candidat à sa réélection, monte sur l'estrade, accompagné de son fils et de sa fille. Les deux sont également candidats. Car la politique se fait en famille aux Philippines, chez les Binay comme dans tout le pays. Le fils, Erwin, siège déjà au conseil municipal à côté de son père et la fille, Abby, se présente comme députée dans la deuxième circonscription de Makati. Noël Lerus, habillé d'un gilet jaune aux couleurs du maire, suit le show avec plaisir et il n'est pas opposé à ce mélange entre la politique et la famille.
Si je vote pour le père, je voterai pour le fils. C'est obligé car ils sont sur la même liste. Mais c'est aussi une question de loyauté envers la famille Binay. En fait, je ne vois pas le problème d'avoir le père et le fils dans le même conseil municipal.
Cette famille Binay représente un exemple des nouvelles dynasties politiques, celles qui sont nées après le renversement de Ferdinand Marcos en 1986. De fait, Jejomar Binay est maire depuis 1986. Mais comme il n'avait pas le droit à plus de 3 mandats consécutifs, il a dû laisser son siège pendant 3 ans et c'est sa femme qui a pris sa place. Aujourd'hui, il avoue lui-même qu'il prépare son fils pour qu'il prenne sa succession. Rudy Gomez, un retraité qui a récemment emménagé à Makati, ne voit pas d'un très bon œil ce partage du pouvoir en famille, mais il est venu à ce meeting pour soutenir le maire tout de même, car celui-ci a mis en place de nombreux projets d'aide pour les familles pauvres et pour les retraités.
Le maire Binay a fait du bon travail. Il a mis en place des programmes pour les personnes défavorisées, pour leur permettre d'aller à l'école gratuitement quand ils ne peuvent pas la payer. Il a aussi pris des mesures très favorables pour les personnes âgées, mais que les familles rentrent ensemble en politique, non, je ne pense pas que ce soit bon. Ce genre d'arrangement, cela pousse aux abus. Si une famille, par exemple, prend le contrôle de tous les postes clés dans une localité, alors il y aura une tendance ou une possibilité d'abuser de ce pouvoir. Moi, je ne regarde pas seulement les noms, je suis aussi vigilant aux performances et aux actions passées des candidats.
Malgré ces projets sociaux réputés, Jejomar Binay est également célèbre pour de nombreux procès pour corruption. Et à la veille de ces élections, la justice vient d'exiger sa suspension administrative et le gel de tous les comptes de la mairie suite au non-paiement supposé de plus de 17 millions d'euros de taxes. Le Centre d'investigation et de journalisme philippin enquête depuis des années sur cette reproduction des dynasties politiques. Jaylin Jimeno est la directrice de ce centre et elle a enquêté sur la famille Binay. Pour elle, Jejomar Binay gère sa ville comme une entreprise d'où il tire ses propres bénéfices.
Dans certaines familles, la politique est devenue comme un business qui se transmet de génération en génération et ainsi de suite. C'est possible à transmettre car vous avez les fonds publics de votre côté. Et vous pouvez mettre des grands panneaux dans la rue, style « Ce projet vous a été offert par Sébastien et son fils, Sébastien Junior, conseiller au tourisme ». Vous pouvez voir beaucoup de ces panneaux dans Manille, avec le visage du maire et de son fils qui a été nommé à une place très importante. Les campagnes politiques, elles, se font très peu à partir d'un programme. Aux Philippines, ça se résume à « Je poursuivrai les projets de mon père ». C'est seulement la continuité de ce que le patriarche ou la matriarche a fait. On en est toujours à ce stade. Les Philippins voient leurs leaders comme des personnes qui peuvent apporter de l'argent ou de la nourriture, pas des projets publics. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on doit toujours quelque chose aux hommes politiques et pas qu'ils font seulement leur travail. C'est pour cela, vous voyez toujours ces panneaux « Ce projet vous a été offert par… » etc. À Makati, il semblerait qu'au moins les enfants de la famille sont qualifiés. La famille de Binay est avocate, son fils a un master en administration publique, ils sont en quelque sorte préparés pour cela, ce qui ne peut pas être dit des autres dynasties dans le passé.
dynasties in the past.
Pour le maire de Makati, il n'y a pourtant pas de raison de s'opposer à la présence de dynasties en politique. Et comme l'explique Carmelito Ansures, son responsable de la communication, c'est avant tout aux électeurs de choisir.
I'd hate to use the term business. It's a family activity, yes.
J'ai horreur d'utiliser le terme de business. C'est une activité familiale, oui, et particulièrement si la fille gagne, car trois membres de la famille seront alors à des postes élus. Justement, un des slogans que nous avons utilisé pour cette campagne dit « La marque Binay, c'est la marque d'un vrai service ». Mais je ne comprends pas pourquoi les gens s'étonnent de cela. Si votre père est avocat, il y a des chances que vous vouliez être avocat aussi. C'est pareil en politique. On dit qu'il y aura de la collusion si les dirigeants ont des liens familiaux très proches. Mais vous savez, vous ne pouvez pas être élu conseiller municipal ou député si les gens pensent que vous allez faire de mauvais tours. Dans d'autres termes, le maire ne peut pas seulement dire « mon fils sera conseiller » si ce fils n'est pas élu. Vous savez, pour quelqu'un qui a été au pouvoir dans cette ville pendant 21 ans de suite, il aurait été si facile d'avoir tous ses fils dans les organes du pouvoir.
Père et fils, frères et sœurs, le même système se retrouve dans tout le pays, à tous les échelons, comme si la famille et la politique étaient deux éléments inséparables aux Philippines. Ainsi, un autre exemple, Gloria Macapagal Arroyo, présidente depuis 2001. Elle est elle-même la fille du président Diosdado Macapagal, élu en 1961. Dans la Chambre des députés également, plus de la moitié des membres sont le fils, le frère, la sœur ou le cousin d'un ancien député. Aux Philippines, tout se construit autour de ce cercle le plus important, la famille. Et Eric Valade peut en témoigner. Ce Français qui vit aux Philippines depuis 10 ans est marié à la sénatrice Jumbi Madrigal, qui fait partie des anciennes et riches familles du pays. Il est maintenant devenu le conseiller et chef de campagne de sa femme.
La femme ou le mari a un rôle prépondérant parce que c'est la famille. On est quand même resté très latin. La famille est très importante aux Philippines. On peut regarder les présidents, c'était Marcos et Imelda, c'est Gloria et Mike Arroyo. Ça marche beaucoup par team, pourquoi ? Parce que en politique, on ne peut pas être sur le devant et sur le derrière en même temps. Il y a beaucoup d'argent qui change de main, il faut des personnes de confiance. Et la famille reste quand même à travers le sang les personnes en qui vous devriez avoir le plus confiance, en général. C'est pas toujours vrai, mais dans notre cas, c'est vrai. Donc, on peut pas être à deux endroits à la fois. Et le mari fait pas mal de choses derrière. Il faut savoir qu'aux Philippines, il n'y a pas de parti. C'est pas comme en France. Philippines, le parti, c'est la personne. Puis il lève des fonds, un certain nombre de choses, mais il n'y a pas gauche, droite. C'est en réalité la personne qui fait son parti. Et c'est pour ça que ça favorise l'élection. N'oublions pas une chose très importante en parlant de famille. Le mari du président actuel, donc Mike Arroyo, est à l'hôpital avec un triple pontage et ce qui va avec. Donc, la personne qui garde les arrières du président ne sera pas actif de la façon dont il a été actif dans les campagnes précédentes. Attention, il n'y a plus de protection dans le dos. Et il y a un sacré nombre de requins autour d'elle. Ça peut porter préjudice à ce qui est planifié.
Le mari de la présidente est sorti le 1er mai de l'hôpital après son opération à cœur ouvert. Et Gloria Arroyo reste clairement en position délicate pour ses élections de mi-mandat. Le 14 mai, tous les députés doivent être élus, ainsi que la moitié des sénateurs et tous les élus locaux. Et la présidente est fortement décrédibilisée depuis la révélation de la tricherie massive qu'elle a organisée pour son élection en 2004. Elle a déjà affronté deux tentatives de destitution et elle pourrait en subir une troisième, encore plus périlleuse, si l'opposition remportait la majorité dans les deux chambres. Un mois avant ces élections, c'est du Sénat qu'a émergé un nouveau débat national sur les dynasties politiques. 12 sénateurs sur 24 doivent être élus le 14 mai prochain et deux candidatures ont fait scandale. Alan Peter Cayetano et Aquilino Pimentel ont en effet chacun un parent qui siège déjà au Sénat et qui sont élus jusqu'en 2010. Si ces deux candidats sont élus à leur tour, les deux familles auront un contrôle sans concurrence sur cette chambre. Pour Francisco Tatad, ceci est impensable. Cet ancien ministre et sénateur pendant 9 ans a ouvertement critiqué son propre parti quand celui-ci a investi les deux candidats.
Deux membres de la même famille ne devraient pas pouvoir siéger dans le même organe. Aux États-Unis, par exemple, quand on parle des dynasties familiales, on se réfère à des générations de politiciens qui se succèdent, une personne après l'autre, pas en même temps dans le même organe. Là, c'est dans le même organe, le Sénat. Et cela concerne la législation nationale. Les familles travaillent en serré aux Philippines, donc les convictions, les principes, tout cela, c'est secondaire. C'est le clan avant tout. Vous ne pouvez pas accepter cela au Sénat.
Vous voulez dire qu'ils ne seront pas indépendants ?
En effet, ce serait impossible. Et avec toute la corruption qui existe dans les deux chambres, ils seront faciles à acheter. Enfin, quand la présidence voudra faire du lobbying, ce sera encore plus efficace car ils représentent deux voix.
De fait, il existe un article dans la Constitution philippine qui interdit clairement les dynasties politiques. Mais la définition de ces dynasties est renvoyée à la loi, et cette loi n'a jamais été votée, comme l'explique Noel Morada, président de l'unité de recherche de sciences politiques à l'Université des Philippines.
What is quite funny for me is when some of his families try to argue, but there's no enabling law.
Ce qui me fait rire, c'est quand ces familles avancent qu'il n'existe pas de loi pour interdire les dynasties, mais c'est justement cela le problème. Un des plus importants échecs depuis la restauration du système démocratique aux Philippines en 1987, soit depuis 20 ans, le Congrès n'a jamais fait de loi pour adapter l'article de la Constitution. Il existe pourtant des textes desquels on pourrait s'inspirer, car nous avons par exemple une loi contre le népotisme dans l'administration. Mais il est évident qu'une telle loi en politique irait contre leurs propres intérêts, car il est clair que le Congrès est dominé par les dynasties politiques. Et c'est justement cela qui est le plus inquiétant si cela arrive également dans le Sénat à l'occasion de ces élections.
Les dynasties familiales, elles naissent la plupart dans les provinces. Là, un clan prend progressivement position dans tous les échelons, depuis le chef du village jusqu'au poste de député. Dans la ville de Danao, sur l'île de Cebu, le maire a toujours fait partie de la même famille depuis 1960, les Durano. Sur les 10 membres du conseil municipal actuel, 5 appartiennent à cette famille Durano. Le député de la circonscription est également le fils du maire actuel et leur domination s'étend également sur la ville voisine où le maire et son adjoint sont de la famille. Et même à Manille, le ministre du tourisme s'appelle Ace Durano. Il y aurait ainsi actuellement 9 membres de la même famille élus à des postes locaux ou nationaux. Sur la place de la mairie de Danao, une grande statue en bronze vient d'être inaugurée. Elle représente Ramon Durano Senior, le père fondateur de la ville, celui qui a initié la dynastie dans les années 60, comme le décrit Nicanor Enriquez, conseiller municipal de Danao.
Le père de la ville, Ramon Durano Senior, assurait tous les services pour les habitants de Danao, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Pour leur mort, la ville vous donnait un cercueil, par exemple, où vous payez l'enterrement. On pouvait aussi vous donner un travail, presque tout en fait. C'est pour cela que les gens à Danao respectent vraiment la famille Durano.
Pour le 14 mai, l'élection ne risque pas de provoquer beaucoup de surprises quant au nom du prochain maire de Danao. Les deux candidats sont deux frères de la famille Durano. Ramon Durano, le troisième du nom, maire actuel, et Don Durano, qui l'était pendant 18 ans avant lui. Selon Joseph Roblet, premier secrétaire de la mairie, cet attachement des habitants à la famille est lié à une manière qu'ils ont de s'occuper de la population.
Je pense que les habitants de Danao savent comment voter. Cette tradition de s'occuper d'eux de la naissance à la mort, elle est toujours vivante. Par exemple, vous êtes enceinte, vous avez besoin d'être hospitalisée, la ville a des allocations pour cela. Nous votons pour un nom parce que nous les connaissons, c'est leur style qui plaît, comment ils mènent la ville. Moi, je ne suis pas un Durano, mais j'apprécie comment le maire s'occupe de la ville. Tant que les Durano traiteront les habitants ainsi, je pense qu'ils resteront au pouvoir. Mais cela peut changer, car chaque membre de la famille est différent, et alors ils devront partir. Mais cela se fera progressivement, bien sûr.
Beaucoup à Danao considèrent encore la famille Durano comme leur famille protectrice et appellent symboliquement le maire de la ville leur père, selon les mots de Inday Sinologue, un professeur de 34 ans.
Personally, I work for my own self. Personnellement, j'arrive à me débrouiller tout seul. Je n'ai jamais demandé rien à personne. Même si je leur demande de l'aide, ils n'hésiteront pas à me la donner. Parce que ce sont de bonnes personnes. Ils sont à la tête de la ville, donc nous les traitons bien sûr comme nos parents. Et des parents ne feraient jamais de mal à leurs enfants, n'est-ce pas ?
Le fait que ce soit deux frères qui se présentent n'empêche pas l'opposition, les rivalités et un vrai choix politique, estime Josefina Kola, une institutrice à la retraite de 67 ans.
Je voterai ce que me dictera mon cœur. Mais même dans ce cas, il y a toujours une différence. C'est comme les cinq doigts de la main, ils sont différents. C'est pareil pour deux frères, ils ne sont pas les mêmes, ils ont différentes caractéristiques.
Dans l'opposition au maire actuel, Don Durano, son frère, voudrait se démarquer de la politique traditionnelle. Il aimerait mettre fin au monopole que la famille détient dans l'économie de la ville. C'est ce qu'explique le conseiller spécial du candidat, Mikey Enriquez.
Don Durano est différent des autres car il veut que Danao devienne un marché libre. Car par exemple, la compagnie nationale de télécommunications, PLDT, opère tout autour de la ville. Mais dans Danao, c'est une compagnie différente qui opère, Danaotel, détenue par les Durano et qui détient le monopole. Don Durano détient donc des parts dans cette compagnie, mais il écoute les conseils des investisseurs qui lui demandent d'ouvrir ce marché. Cet exemple est symbolique de leur contrôle de l'économie. Car quand un investisseur arrive ici, il doit d'abord parler avec la famille, même ceux qui ne sont pas à la mairie.
First with the Durano's other talk side from the usual channels in government.
Un candidat d'une autre famille, il paraît qu'il y en a eu à la dernière élection, mais selon le conseiller, les habitants de Danao ne sont pas prêts, poursuit Mikey Enriquez.
That has been instilled in their minds that they owe their very life to the Durano, debt of gratitude.
C'est clair dans leur esprit, ils doivent leur bien-être actuel au Durano. C'est comme une dette de gratitude. Sans les Durano, nous ne serions pas aussi aisés. Ils doivent cela aux Durano en partie car ce sont eux qui contrôlent l'économie. Mais cette dette ne devrait pas s'étendre à l'administration et à la politique. Pourtant, beaucoup de gens se disent « Duranistas » et si une autre famille venait à se présenter, ils s'y opposeraient. Mais quand cette politique de paternalisme sera démantelée, alors un nouveau leadership pourra émerger. Mais les habitants de Danao ne sont pas encore assez mûrs pour cela.
Car ce sont avant tout les électeurs qui choisissent, en tout cas quand le scrutin est transparent. Alors une démocratie aux Philippines, oui, mais une démocratie où les habitants manquent trop souvent d'éducation et encore plus d'argent pour choisir rationnellement et objectivement leurs dirigeants, comme l'explique le politologue Noël Morada.
Ils sont élus bien sûr, mais c'est biaisé, car le problème est que la majorité de la population de ce pays est pauvre et que les politiques entretiennent des relations de clientélisme avec ses électeurs. De plus, dans beaucoup d'endroits, le nom d'un candidat est l'unique repère pour les électeurs, car ce ne sont pas les partis politiques que vous écrivez sur les bulletins, ce sont les noms. Donc, le nom de famille est crucial. Cela remonte à l'époque de la colonie américaine, car les États-Unis n'ont pas développé d'institutions dans ce pays, mais se sont appuyés sur de grandes familles. Et beaucoup de ces familles ont encore, maintenant, le monopole de secteurs stratégiques du pays, télécommunications, compagnies aériennes et de bateaux.
Malgré cela, vous pensez que la démocratie est toujours effective aux Philippines ?
Pas le genre de démocratie que je préférerais. C'est une démocratie d'élite, une démocratie pour des familles qui contrôlent l'économie et la politique de ce pays.
Grand reportage aux Philippines, Sébastien Farsi, réalisation Marc Minatel.
I'm connected in tech to build two companies. One of the richest shipping companies in the world.